Et bon, je voudrais, j'ai intitulé ces quelques minutes, la texture du présent. Et où en sommes-nous avec le présentisme? Alors, il est clair que le présent est notre lieu et notre milieu. Et il en a toujours été ainsi pour les communautés humaines. Mais pour tenter de l'appréhender, ou d'en appréhender la texture, il faut commencer par s'en distancier. En sachant qu'il n'est ni le même, ni pour tous, ni partout. Et qu'il est bien difficile de lui assigner des limites sûres. Malgré tout, existe un certain nombre d'instruments de distanciation, puisque c'est la démarche même de toutes les sciences sociales. Observer, mesurer, évaluer, interpréter, comparer, afin de comprendre plus pour agir mieux. Grâce à ces enquêtes multiples, nous en savons en effet beaucoup sur le présent, ou plutôt sur les différents présents. Et même, nous en savons de plus en plus, compte tenu des possibilités qu'ouvre le développement rapide du big data. Mais cet accroissement de connaissances risque aussi d'accentuer le morcellement. Si nous savons de façon de plus en plus précise ce que c'est que vivre dans le présent, selon que vous êtes femme, homme, ouvrier, cadre, chômeur, jeune, vieux, migrant, etc., nous ne voyons pas forcément mieux quel est ce présent, sa texture. Pour prendre une image, nous en appréhendons de mieux en mieux les détails, mais pas forcément ce qui a présidé à la composition du tableau. En ce point, l'historien peut apporter sa contribution en proposant des allers-retours entre présent et passé par le relais de la comparaison. C'est ce que j'ai essayé de faire quand j'ai suggéré de nommer présentisme le moment contemporain. Ce diagnostic résultait d'une prise de distance maximale, puisqu'il s'agissait de comparer des présents du passé avec le nôtre, en s'arrêtant sur des moments de crise du temps. Ce que je voulais dire avec d'autres, c'est que nous étions passés d'une configuration où le futur était la catégorie dominante, à une nouvelle, où le présent venait à se trouver investi de ce rôle. Quand le futur occupait le premier rôle, il éclairait en effet le présent et le passé, et porté par le progrès, il invitait, obligeait le plus souvent à marcher de plus en plus vite vers un avenir gros de promesses. Accélérer et moderniser ont été ses maîtres mots. Toute une part du XIXe siècle a ainsi été intensément futuriste. Mais deux guerres mondiales et quelques révolutions plus tard, alors que les promesses les plus radieuses avaient viré au cauchemar, il devenait impossible de croire que progrès scientifique, progrès technologique, progrès de l'humanité marchaient du même pas. Le progrès, avec un majuscule, s'était abîmé. C'est alors ouverte dans les années 1970 ce qu'on a vite appelé une crise du futur, soit un futur qui se fermait, alors que, comme en contrepartie, le présent prenait une place de plus en plus grande. Si l'occasion en a été le premier choc pétrolier en 1973 et ses suites sur les économies occidentales, la crise venait en fait de bien plus loin. Et pour la première fois, une décision de portée mondiale échappait à l'Occident. Ce fut une composante importante du choc. Le présent est alors devenu à la mode et très vite une injonction. Il fallut non seulement être de son temps, mais travailler et vivre au présent. Ne jamais être en repos, être flexible, mobile, répondre à la demande, innover sans relâche, sont ces mots d'ordre, avec deux maîtres mots, accélération et urgence. Bien vite, les nouvelles technologies de l'information ont porté, diffusé, démultiplié les possibilités d'expérience, les possibilités d'exploiter ce qu'on nommait alors le temps réel. Paradoxalement, alors que d'un côté le présent tendait presque à s'abolir dans l'instant, il ne cessait de l'autre de s'étendre, tant en direction du passé que de l'avenir, jusqu'à devenir omniprésent, cannibalisant les catégories du passé et du futur, c'est-à-dire fabriquant quotidiennement, d'abord, puis à chaque instant et en continu, le passé et le futur dont il avait besoin. Un peu partout, la publicité n'a pas manqué de claironner que le futur commençait demain, ou mieux, maintenant. Le changement ne fut-il pas lui aussi annoncé pour maintenant, lors de la campagne présidentielle de 2012 ? À ce présent, oscillant entre le presque tout et le quasi rien, il faut ajouter encore une dimension, car ces décennies ont été aussi celles des années mémoire, selon l'expression de Pierre Nora. Shoah, le film de Lanzmann, sorti en 1985, en témoigne avec une force singulière. Tandis qu'entre 1984 et 1992, les lieux de mémoire de Nora font appel à la mémoire pour réécrire l'histoire. Ce sont en ces années que demande de mémoire, devoir de mémoire, droit à la mémoire prennent une place de plus en plus grande dans les espaces publics, médiatiques, judiciaires, culturels. Bientôt, la mémoire et son alter ego, le patrimoine, deviennent deux figures obligées des discours et des agendas politiques. Un peu partout, les commémorations se multiplient et sont l'occasion de grandes messes, nationales, patriotiques, chauvines, parfois, protestataires aussi. Des politiques mémorielles se mettent en place, débouchant souvent sur des lois mémorielles. Le présentisme ne croit plus en l'histoire, mais il s'en remet à la mémoire, qui est en somme une extension du présent en direction du passé, par évocation, convocation de certains moments du passé, le plus souvent douloureux, cachés, oubliés. Convocation dans le présent. Mais sans ouverture vers le futur, sauf celle que portent les jamais plus, qui indiquent d'abord un retour sur un passé dont on proclame la clôture. Souvent, les parcours des musées de la mémoire, dont le nombre s'est multiplié à travers le monde, s'achèvent sur cette injonction morale, ne pas oublier pour ne pas recommencer. L'histoire, en revanche, avec une H majuscule, celle que le 19e avait élevée au rang de divinité majeure, ouvrait vers le futur et était téléologique, que ses héros fussent la nation, le peuple, le prolétariat. Ce faisant, elle était plutôt du côté des vainqueurs ou de ceux qui, provisoirement vaincus, seraient victorieux demain, alors que la mémoire devenait l'instrument ou l'arme de ceux qui n'ont pu parler ou qu'on n'a pas entendu, des oubliés de l'histoire, des minorités, des victimes. Mémoire et présentisme vont donc de pair, mais la mémoire permet d'échapper à un présent où les repères s'effacent à grande vitesse sans le quitter pour autant. Faire face à ce passé qui, comme on l'a dit, ne passe pas, celui des crimes contre l'humanité et des génocides, est donc aussi une des modalités du faire face au présent, puisque ce passé est non seulement encore présent, mais du présent. L'imprescriptibilité du crime contre l'humanité a pour conséquence que le criminel, sa vie durant, demeure contemporain de son crime. Car pour lui, justement, le temps ne passe pas, mais du même coup, pour nous non plus. Comme l'ont montré les procès pour crimes contre l'humanité, depuis celui d'Adolf Eichmann en 1961. Diagnostiquer le présent, ce qui était pour Michel Foucault la tâche même du philosophe, c'est aussi percevoir qu'il n'y a pas un seul présentisme, le même pour tous, mais des présentismes, au moins deux. Il y a d'un côté celui qui est choisi, celui de ceux qui sont connectés, mobiles, agiles, sont reconnus comme, entre guillemets, les gagnants de la mondialisation, et de l'autre, celui qui est subi, celui de tous ceux qui sont interdits de projet, qui ne pouvant littéralement pas se projeter vers l'avenir, vivent, survivent même au jour le jour. Leur seul univers est la précarité, voire la grande ou très grande précarité. Aujourd'hui, le plus démuni est celui qu'on a nommé le migrant. Il n'est ni un émigré, ni un immigré, mais un migrant, comme s'il était enfermé dans le présent sans fin de la migration. Entre le présentisme le plus complètement choisi et le plus subi, existent assurément toutes les situations intermédiaires. Mais nous percevons de plus en plus nettement que des temporalités trop désaccordées entre groupes sociaux, classes d'âge ou classes sociales, sont porteuses de dangers. Si elles ne le produisent pas, la discordance des temps alimente puissamment le conflit social. quand des contemporains partagent le même présent tout en étant simultanément dans un autre temps, le dénivelé, s'il grandit trop, peut nourrir des mouvements de repli, de refus, de colère. Les distances spatiales entre centre et périphérie sont au moins autant des distances temporelles. Depuis quelques années, l'Europe en fait presque quotidiennement l'expérience avec les traductions politiques que l'on voit, le succès des mouvements populistes. Il ne suffit pas d'utiliser les mêmes téléphones portables pour partager le même présent. Aussi entend-on ici et là des appels à sortir du présentisme ou du court-termisme, en empruntant ce terme à la finance, à rouvrir l'histoire et à réinvestir l'avenir. S'opère une prise de conscience que cette bulle, si en phase avec l'économie globalisée, celle d'un capitalisme financier et des grandes entreprises du net, pour qui chaque instant, même de l'ordre de la nanoseconde, doit générer des profits, prise de conscience que cette bulle est porteuse de dangers sérieux. Mais en finir avec le présentisme ne se décrète pas. D'autant moins qu'en régime présentiste, le temps historique tel que nous le connaissions patine ou n'embraye pas. Le temps historique porté par le futur s'alimentait en effet de l'écart entre le champ d'expérience et l'horizon d'attente, pour reprendre les catégories de Reinhard Koestlec. Et un écart qui allait en augmentant, plus l'attente l'emportait sur l'expérience. Or, ce temps-là, non seulement n'a plus cours, mais on ne voit pas comment il reprendrait son cours dans le monde qui prend forme depuis le début du XXIe siècle. Rouvrir l'histoire passe d'abord par la formation d'un nouveau concept d'histoire qui, tout en récusant la tyrannie du présent, puisse commencer par rétablir une véritable circulation entre les trois catégories du passé, du présent et du futur, et permettre ainsi de vraiment faire face au présent pour agir sur lui. Les initiatives se multiplient pour échapper au rythme toujours plus rapide des métropoles. À l'accélération et à l'urgence, on oppose le ralentissement. Le slow food est venu contester l'évidence du fast food. Sont recherchés des genres de vie plus sobres en énergie, privilégiant le recyclage et les circuits économiques courts. Pour rompre avec les modes de vie induits par le présentisme, on voit des familles quitter les grandes villes. Depuis peu, la permaculture est devenue comme l'étendard de ces nouveaux modes de vie. Ce sont autant de petites sécessions silencieuses, plutôt individuelles, dont le nombre va en augmentant. Vont-elles s'agréger et devenir une force politique organisée? On pourrait les croire inspirées par la nostalgie du « c'était mieux avant ». Mais c'est en réalité le souci du futur qui est mis en avant. Pour eux, qui souvent sont des enfants du présentisme, n'ayant connu que lui, ce n'est pas le « retour au pays » entre guillemets tel qu'il a été pratiqué dans les années 1960 qu'ils remettent au goût du jour. Ils se trouvent confortés dans leur choix par le fait qu'on entend, venus de divers horizons, ces appels de plus en plus présents à sortir du court-termisme. Même les politiques s'y essayent plus ou moins habilement en usant davantage du terme « avenir » dans leurs interventions publiques et lors des campagnes électorales. Mais pour certains, le chemin le plus direct vers l'avenir est celui du passé, c'est-à-dire d'un passé mythifié. Tel est le cas du slogan gagnant en 2016 « Make America Great Again » and « Back to the Future Past » ou « Back to the Future Past ». Mais surtout, ces critiques venues de l'intérieur, suscitées par le présentisme lui-même, ont été à la fois renforcées et profondément transformées par le surgissement récent d'une menace porteuse d'un temps inédit, celui de l'Anthropocène. On passe du souci du futur à la peur de l'avenir. Tout d'un coup, en effet, le présentisme, ce temps qui n'a cessé de se réduire jusqu'à presque disparaître, se trouve confronté à un temps ordinaire, mais qui se compte en millions et en milliards d'années. Tout se passant comme si ce nouveau chronos venait faire éclater la bulle présentiste, obligeant ses occupants à regarder au-delà de leurs pieds ou de leur retour sur investissement. Le futur est bel et bien là, un futur qui tout à la fois n'est pas à notre main, ne l'est plus et l'est encore un peu. Engagé depuis les années 2010, le grand mouvement de bascule est encore largement en cours, non sans anxiété ou emballement parfois. Le présentisme use abondamment de la catastrophe, prise comme la forme négative de l'événement. Mais l'Anthropocène ne la mobilise pas moins. Dans ce cadre, elle peut désigner à la fois la catastrophe en marche, le réchauffement climatique dont les rapports du GIEC mesurent l'inexorable progression, ou la catastrophe finale, la sixième extinction des espèces terrestres. On en parle aussi volontiers en termes d'effondrement et bien sûr d'apocalypse, mais négatif seulement. Toujours disponible, l'apocalypse est mobilisé par nombre de glosateurs sur et autour de l'Anthropocène. Bref, la catastrophe passe aisément du présentisme à l'anthropocène, avec cette différence que la catastrophe anthropocénique est porteuse d'une idée de la fin que la catastrophe présentiste ignorait, puisqu'on allait simplement d'une catastrophe à une autre. Hier encore, le présentisme croyait pouvoir être à lui-même son propre horizon. Mais déjà contesté de l'intérieur, il se trouve soudain face à un nouvel abîme du temps, un sombre abîme du temps, pour reprendre la formule de Buffon, au moment où il confrontait le temps de la Bible au temps long de la géologie et de l'histoire naturelle. Car s'il est assurément questionné de divers côtés, le présentisme n'en est pas moins toujours actif, dans la mesure où son principal opérateur, à savoir la révolution numérique, poursuit sa progression. Or, cette dernière, ainsi que toutes les transformations qu'elle induit et provoque rapidement dans tous les secteurs des sociétés, comme dans les vies des individus, relève d'un temps, à coup sûr, un temps ordinaire, un temps chronos, mais très court, puisqu'on se meut dans un univers de nanosecondes. Alors même que les individus et les institutions se trouvent amenés à, sinon sommés de, s'ajuster à l'instantanéité. Voilà qu'un temps proprement incommensurable, rien que du temps, mais du temps très long, s'ouvre sous leurs pas, ou pour prendre une autre image, se dresse devant eux. Au temps destitué du présentisme succède un temps chronos restitué, auquel il va falloir apprendre à faire face. D'un côté, l'avenir immédiat consiste à entrer dans une nouvelle condition, on peut appeler la condition numérique, en essayant de lui conserver ou de lui donner un visage humain. De l'autre, l'avenir immédiat semble s'engloutir dans un temps qui échappe à toute prise. Comme jamais il ne l'a été jusqu'ici dans l'histoire humaine, Chronos se trouve clivé entre un temps si court qu'il disparaît presque et un temps si long qu'il échappe à toute représentation. La nouvelle condition numérique est aussi une condition déchirée ou écartelée entre deux temporalités radicalement incommensurables. Tout l'enjeu est de savoir si cette condition, il est possible, il est possible de faire une nouvelle condition historique. Entre le temps de l'Anthropocène et celui des microprocesseurs, que pourrait être un temps historique ou un nouveau temps historique? Chercher à saisir la texture temporelle du présent oblige donc à un double mouvement de mise à distance. Un premier, ordinaire, familier, qui consiste à prendre du recul. Observer le présent comme si on n'en était pas pour mieux voir ce dont il est fait, sa texture. Mais aujourd'hui, s'extraire de la bulle présentiste ne suffit plus. Il faut opérer une seconde mise à distance, nettement moins familière, celle-là, qui consiste à s'efforcer de regarder la Terre, qui est une planète parmi les planètes, comme si on n'en était pas. Cet exercice redoublé de regard éloigné est passablement plus difficile, mais nous en détourner ou le différer serait lâcheté. Telle est notre tâche d'aujourd'hui, sans céder aux agitations apocalyptiques. Merci.